de vous accueillir à le deuxième jour de cette merveilleuse colloque. Moi, je suis professeur... Oh, micro, ça... Comme ça? Je dois le savoir parce que ma soeur est disjockée, mais il y a des choses qui ne vont pas dans la famille. Alors, moi, je suis Tyler Stovall, je suis professeur d'histoire et doyen aussi pour mes péchés à l'Université de Californie Santa Cruz. Et je suis très, très heureux d'être ici et très, très reconnaissant au comité scientifique et des organisatrices de ce colloque. Je vous remercie beaucoup. Et aussi tous les assistants qui ont posé des questions très intelligentes et très intéressantes. Il va continuer notre ouvrage en commun sur les questions de féminisme noir en France et dans les espaces francophones. Je sais que mon devoir, c'est de présenter les vraies présentatrices ici. Alors, je vais me cesser de parler comme un fou et je vais continuer avec mon travail. Je vous présente d'abord Mme Sarah Zimmerman, qui est professeure, assistante professeure, titularisée professeure à Western Washington University, qui a gagné son doctorat à une petite école minable, qui est à l'Université de Californie, Berkeley, et elle a travaillé avec des professeurs tout à fait inconséquents. Mais en dépit de ça, elle a fait des beaux ouvrages, et on va entendre maintenant une petite morceau de ce qu'elle a fait. C'est à vous.
Bonjour à toutes et tous et merci Tyler Stovall, mon ancien advisor et tous. ancien, bien ça continue. Hein. Mais bon, je vais présenter en français aujourd'hui de faciliter la discussion après. Et je vais commencer rapidement parce que je sais qu'il y a des limites de temps. Donc... La naissance de la 12e République française a annoncé une transformation spectaculaire de pouvoir et de l'autorité genrée sur l'île de Gorée. Afin de suivre des transformations de pouvoir, nous avons besoin de cadres théoriques qui rendent compte de l'intersectionnalité des Goréens au milieu du 19e siècle. Dans le cas de Gorée, la race et le genre ont aussi importante que la statue d'être esclave ou libre pour comprendre comment les institutions affiliées au républicanisme français ont inauguré une autorité patriarcale qui permettrait aux hommes africaines, interraciales et français de bénéficier du colonialisme moderne que les Français ont introduit en Afrique d'Ouest pendant la seconde moitié du 19e siècle. Au cause des limites de temps, je focalise sur la question du genre dans cette intervention, mais je suis heureuse de parler plus sur les questions des femmes de couleur et aussi le matisage et la hiérarchie de race après. Cette intervention s'intéresse à la manière d'historicier le genre, les droits, les traditions et l'égalité alors que les femmes goréennes ont vécu l'évolution de l'esclavage transatlantique au colonialisme français moderne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'île de Gorée, c'est un site de patrimoine mondial de l'UNESCO qui possède des bâtiments coloniaux du XVIIIe siècle, plusieurs musées et l'infâme maison des esclaves. Gorée, c'est pas loin de Dakar au Sénégal. La Compagnie royale du Sénégal s'est installée à Gorée à la fin du XVIIe siècle et l'île devient un comptoir de commerce régional et transatlantique. Des Ouest-Africains se sont délocalisés sur l'île pour profiter de nouvelles opportunités économiques et les autres Ouest-Africains se sont arrivés dans un état d'esclavage. Au XVIIIe et XIXe siècle, Gorée était une société esclavagiste. Le mi-18e siècle, les esclaves de Gorée étaient pour la plupart les esclaves domestiques qui se sont travaillés pour les maîtres suivantes femmes, suivant Métis, sur l'île. Selon un recensement de 1845, l'île avait une population dense de 5 230 personnes. Et c'est une île de 300 mètres par 900 mètres, donc c'est petit. Les esclaves représentaient 76% de la population. Les femmes et les filles représentent 56% de la population. C'est aussi en 1845. Les femmes représentaient le plus grand démographique dans les deux catégories, libres et esclaves. Donc, 3 ans après, le Guéret connaîtra d'énormes bouleversements dans l'ordre de la société. Le 27 avril 1848, la deuxième République française a aboli l'esclavage dans ses colonies et accorda la citoyenneté aux habitants de leurs colonies dans les Caraïbes, en Afrique, particulièrement Saint-Louis et Guéret en ce temps-là, et dans l'océan Indien. L'universalisme républicain s'est limité par le genre. En fin de compte, les femmes de Guéret, anciennes esclaves et aussi anciennes maîtres, se sont marginalisées des droits universels républicains. Et voilà une photo de document qui a annoncé. Bon, c'était la première fois que je l'ai vu dans les documents que on peut voir que oui, l'émancipation arrive à Guéret, mais c'était des mois après. Mais moins d'un mois, dans quelques semaines après qu'on a noté l'émancipation, les seigneurs de Guéret ont déclaré leurs inquiétudes concernant l'émancipation avec le commandant local qui s'est appelé Gachot. On peut le voir, le signature là. L'histoire des signards a commencé avec la traite transatlantique, initialement étiquetée comme Saint-Horace par les commerçants et explorateurs portugais. Ces femmes africaines ont acquis un statut et une réputation grâce à leurs activités commerciales et leurs acquisitions de la propriété immobilière et l'acquisition aussi des esclaves domestiques. Suivant le résultat des relations conjugales interraciales, les signards sont devenus une partie des populations métisses de l'Afrique orientale côtière du XVIIIe siècle. Les signards qui écrivent au commandant Gachot en 1848 étaient de divers degrés d'ascendance africaine et européenne dont les intérêts étaient unis autour de la question de l'abolition. Et bon, c'est difficile à voir, mais ce sont notés dans les documents-là, leur pétition au maire. Donc, leur pétition originale ne figure pas dans les documents d'archives, mais les réponses du commandant indiquent clairement que les signataires voulaient conserver leurs accès au travail vital fourni par leurs esclaves domestiques. Ces commentaires montrent également que ces femmes connaissent le fonctionnement des institutions juridiques et politiques au niveau local et au sein de l'Empire français. Plus précisément, les seigneurs s'intéressaient à la lettre de la loi, à son application, ainsi que à la manière dont le gouvernement avait l'intention de protéger les relations entre les propriétaires d'esclaves et les esclaves avant et après l'émancipation. Les seigneurs ont demandé des rémunérations, excusez-moi, pour l'émancipation de leurs esclaves, ce qui a signalé leur prise de conscience d'une stipulation dans le décret de l'abolition universelle de 1848, indiquant que l'Assemblée nationale française accorderait des indemnités aux anciens maîtres après avoir libéré leurs esclaves. L'attribution des indemnités a commencé à partir du 30 avril 1849. Un fonctionnaire a averti que ces indemnités ne devaient pas être interprétées comme une rémunération pour les esclaves libérés. Ces indemnités constituaient l'assistance d'urgence de l'État pour les difficultés économiques que les anciens maîtres d'esclaves subiraient pendant leur réorganisation des relations de travail. Donc, je peux en faire des commentaires, mais bon, je continue. Sur l'île de Guéret, Les autorités locales ont encouragé les relations bienveillantes patron-client qui continueraient de restreindre les libertés des anciens esclaves. En avril et mai de 1849, Goré créait des conseils gouvernementaux de patronage et de tutelle pour soutenir et éduquer les filles et les garçons nouvellement libérés. Les femmes importantes de Goré, la plupart anciens propriétaires d'esclaves, géraient ces institutions. Ces attitudes et ces actions ont facilité le maintien des relations inégales entre les anciens esclaves et les anciens propriétaires. L'émancipation universelle de 1848 a libéré les anciennes esclaves goréens dans une société où les femmes se battent de maintenir leur autonomie politique et économique. L'émancipation des esclaves combinée à l'abolition pour la France de la traite des esclaves 30 ans plus tôt a éliminé les formes principales d'accumulation des biens et des ressources, accompagnant par les transformations des pratiques de travail sur l'île et des bouleversements de la manière dont les résidents de l'île ont participé dans le monde atlantique. De nombreux anciens esclaves sont restés avec leurs anciens maîtres en raison du manque d'opportunités économiques. D'autres cherchaient les liens familiaux et des opportunités économiques en Sénégambie. Des fois, les personnes libérées ont quitté Goré et se sont rassemblées dans un quartier à la périphérie. Et c'était un village en 1848, mais c'était le village de Dakar. Si les femmes autrefois esclaves ont participé à la création de ces nouvelles communautés à Dakar, elles l'ont fait comme des épouses. Le droit civil français de 1830 offrait aux femmes des possibilités limitées de vivre hors des liens légitimes de mariage, ce qui les empêche d'obtenir et de maintenir des ressources sans le soutien des hommes. Et c'était extrêmement différent pour les seigneurs du XVIIIe siècle. L'historienne Pamela Scully a soutenu que les femmes esclaves étaient libérées dans les liens du mariage et ne pouvaient pas acquérir le statut de citoyenne à part entière. Le mariage hétéronormatif est devenu une institution clé pour organiser la société goréenne en fonction du genre. Les nouvelles formes de patriarcat et de privilèges masculins qui accompagneraient la citoyenneté française en 1848 réduisent le pouvoir économique des femmes libres et libérées en réorientant les lignes d'héritage par la primogéniture patrilinéaire. Les femmes qui dirigeaient autrefois des ménages indépendants et des industries commerciales ont vu leur pouvoir restreindre l'essor des institutions économiques et politiques homosociales masculines. Les conseils municipaux, les chambres de commerce, les femmes sont devenues mineures, juridiques et politiques dans l'Afrique française post-émancipation. La vie privée est devenue le domaine des femmes et la vie publique est devenue la prérogative des hommes. Donc, et voilà, je vous montre une liste électorale de 1851. Pas une femme. Donc, c'est un grand changement immédiatement après 1848. Donc, après 1848, les hommes de Goré et Saint-Louis au Nord pouvaient élire un homme pour les représenter à l'Assemblée nationale française. Les centres de pouvoir politique ont changé lorsque le capitalisme d'investissement a modifié la façon dont les commerçants, les fonctionnaires et les militaires ont étendu leur présence dans les villes commerciales côtières sénégalaises. Au cœur de l'été 1849, les conseils administratifs locaux ont présidé à l'attribution des concessions foncières sur la côte sénégalaise et ont prévu l'introduction des taxes foncières en 1850 et 1851. l'absence des femmes dans ces institutions coloniales a réduit leur capacité à participer à des nouvelles initiatives coloniales. On peut voir les conséquences avec l'histoire des indemnités. Et ça, c'est une liste présentée par la citoyenne Virginie Legros. Entre 1849 et 1850, des anciens maîtres ont déposé 145 demandes d'indemnisation, excusez-moi, auprès d'un comité dirigé par le maire de Garay, François de Saint-Jean. Les pétitionnaires ont fourni les noms des esclaves libérés. 63% des personnes cherchant des rémunérations étaient femmes, dont certaines utilisaient le mot « citoyenne » comme honorifique pour la première fois dans les documents officiels. La majorité des 2192 esclaves émancipés étaient des filles et des femmes. Même si elles étaient également citoyennes françaises, les noms des femmes émancipées n'étaient pas ornés de citoyennes pour désigner leur nouveau statut. Ces documents offrent une fenêtre importante sur la marginalisation financière systématique des femmes autrefois puissantes et aussi des femmes nouvellement libérées sur l'île de Garay. Dans les années suivantes, l'émancipation, les propriétaires d'esclaves ont libéré leurs esclaves devant des témoins de l'État. Ces agents ont fourni aux anciens propriétaires, suivant les signataires, des certificats qui leur donnent le droit aux indemnités que l'État distribuerait ultérieurement. Dans les mois et les années intermédiaires, beaucoup de ces femmes ont vendu leurs certificats aux négociants locaux et aux négociants basés à Bordeaux et Marseille. Ces hommes ont acheté les certificats d'indemnisation aux deux tiers ou aux trois quarts de leur valeur déclarée. Beaucoup de seigneurs ont vendu leurs titres à ces taux réduits pour payer les nouveaux impôts fonciers. Les dettes résultaient du manque d'accès à la main-d'œuvre et aux biens autrefois fournis par leurs esclaves. Lorsque l'État français a remboursé les titulaires de titres en 1852, il n'avait qu'une seule signataire, Marie Laboré de Saint-Louis, parmi 10 hommes français et interraciaux, qui détenaient des titres pour plus de 50 esclaves libérés. Les hommes puissants enterrants, Marie Laboré, ont échangé leur certificat d'indemnité pour les titres dans la treasury de l'État français. Ces actions leur ont donné une majorité au conseil d'administration de la Banque du Sénégal, qui était un nouvel instrument important de développement économique au Sénégal. Après 1852, la plupart des seigneurs étaient en mauvaise position financière pour participer à une nouvelle entreprise coloniale. L'émancipation des esclaves et la domination coloniale française du 19e siècle ont reconfiguré l'accès genré au pouvoir sur l'île de Ré. L'autorité socio-économique qui autrefois était en équilibre sur l'état de l'esclave s'est déplacée vers le sexe et aussi le genre comme des facteurs les plus saliants pour que les Garéens accèdent à la liberté, à la représentation politique et aux opportunités économiques. Après 1848, l'octroi des droits politiques aux hommes, l'émancipation des esclaves, la montée du capitalisme colonial et l'expansion de l'autorité patriarcale ont sapé les femmes garéennes autrefois puissantes. Les anciens propriétaires d'esclaves et les anciennes esclaves qui constituaient la majorité démocratique de l'île au milieu du XIXe siècle, n'ont pas obtenu l'égalité. Une ségrégation sexo-spécifique des sphères publiques et privées s'en est suivie. Les affaires et la politique sont progressivement passées des ménages goréens dirigés par les femmes aux chambres de commerce, aux conseils municipaux et aux tribunaux où les hommes prédominent. Dans une génération, les puissantes femmes goréennes, appelées signares et produites par les courantes du monde atlantique, ont été marginalisées du pouvoir politique et l'économie sociale. Je vous remercie.
Bonjour à tous et à toutes. Vous allez me pardonner de faire ma présentation debout. Il était tradition pour moi d'honorer d'abord les femmes, et aussi parce que je suis maître de judo et maître également de karaté, et cette tradition m'oblige à pouvoir la faire debout. Donc, je vous entretiendrai ce matin sur le féminisme musulman en Afrique subsaharienne, récit historique, gynocentré de l'accès à la propriété foncière des femmes musulmanes Peul de la Damawa au Cameroun. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire, quand j'avais envoyé la proposition, c'était intitulé « Le féminisme musulman en Afrique subsaharienne, récit historique endocentré ». Mais il m'a paru plus intéressant de mettre à la place d'endocentré, gynocentré. Et de m'attarder aussi sur le concept de Peul en parlant de Peul sédentarisé. Dans mes développements, vous allez sans doute vous en rendre compte. Pour ce faire, ma présentation va reposer sur une architecture hexagonale à partir de l'axiomatique hexagonale, reposant sur la mise en bouche de ma présentation, de la définition des concepts, des objectifs, de la question de recherche, de la méthodologie et hypothèse et des mouvements démonstratifs. L'émancipation de la femme musulmane Peul de la Damawa à l'égard du carcan de coutumes éculé, comme à l'égard des injonctions inquisitoriales et des pratiques obscurantistes des traditionnaires, demeure l'une des questions les plus ardentes et les plus controversées en contexte post-impérial. Il y a des concepts qu'il mérite que l'on se mobilise pour pouvoir clarifier afin que la suite des développements puisse aller aisément. Nous avons premièrement le concept de féminisme musulman Peul qui renvoie tout simplement à une proposition de changement social impliquant la remise en cause du patriarcat par la transformation des systèmes de création et de production des pouvoirs sociaux des sexes en termes de justice et d'équité en vue de parvenir à ce que Platon appelait une cité idéale, plus juste, plus libre et plus solidaire. L'accès à la propriété, quant à elle, renvoie à la possibilité d'en avoir le plein exercice, à la possibilité de pouvoir en disposer et à la possibilité de pouvoir en bénéficier. S'agissant du concept de Peul, nous dirons que les Peuls ou le Peul, n'est-ce pas, constitue un peuple traditionnellement établi dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà de la bande sahélo-sahélienne, soit dans une quinzaine des pays différents. Pour ce qui concerne le Cameroun, les Peuls sont établis dans la partie septentrionale qui couvre à la fois la région de la Damawa, qui fera l'objet de notre présentation, la région du Nord, qui est Garoua, et la région de l'extrême Nord. Il faudra aussi préciser ce que l'on entend par la Damawa, nous dirons que la Damawa, c'est une région frontalière qui se situe à l'est, à l'ouest du Nigeria, de la République centrafricaine, à l'est, et qui est l'une des régions, des 10 régions que compte le Cameroun, troisième région la plus vaste, et son chef-lieu, c'est Ngaoundéré. Nous pouvons voir sur la carte du Cameroun où se situe la région de la Damawa avec ses 5 grands départements. Banyo qui représente ici le Mayo Banyo, Tibati qui représente ici le Djerem, Menganga qui représente ici le Béré, Ngaoundéré qui représente ici la Vina. Et enfin, nous avons Tignac qui représente ici le Faro et Déo. Donc, ce sont les grands départements que renferme la région de la Damawa. Nous pouvons voir ces différents départements dans la carte. S'agissant de la question de recherche, dans le cadre de cette réflexion, l'on s'interroge sur les sentiers historiques de l'évolution du statut des femmes musulmanes peules de la Damawa vis-à-vis du droit à l'accès de la propriété foncière. Cette question implique deux questions sous-jacentes, à savoir comment situer les légendes de la non-reconnaissance des droits fonciers de la femme musulmane peule de la Damawa au regard du spectre religieux et de la subalternité et de l'infériorisation. Seconde question, comment mettre en exergue les épisodes de la reconnaissance progressive des droits fonciers de la femme musulmane peule de la Damawa? Dans le cadre de cette réflexion, l'hypothèse admise ici est celle selon laquelle le statut des femmes musulmanes peules de la Damawa est le produit ou le scalaire construit d'un projet politique au regard des champs de lutte vers une vision transversale à partir d'un militantisme féminin musulman peul. Et à partir donc de cette hypothèse, il est tout à fait aisé que l'on mobilise comme cadre théorique le constructivisme sociologique de Peter Berger et Thomas Lugman afin d'observer et de construire les différentes trajectoires séquence sociale d'émancipation des femmes musulmanes peules. S'agissant de la méthodologie, notre présentation ou argumentation s'appuie sur une série d'interviews qualitatives et quantitatives. Cette binarité est recommandée pour les études qui visent surtout à analyser les processus de construction et les sentiers historiques sur la légitimation ou l'acquisition d'un droit, c'est-à-dire le droit à l'accès à la propriété foncière. Et la collecte des données a été réalisée entre mai et juin 2019 en Ngaoundéré, notamment au Lamida de Ngaoundéré. Bon, le Lamida, pour faire simple, c'est une forme de chefferie supérieure dans la région de la Damawa, donc dans la partie septentrionale. On a très généralement comme chef le Lamido. Et donc, nous avons Ngaoundéré 1er, Ngaoundéré 2e, Ngaoundéré 3e, qui ont été les sphères dans lesquelles nous avons pu réaliser notre étude. Et précisons que les Peuls constituent le peuple autochtone et les Peuls sédentarisés, parce qu'il faut faire une différence, établir un distinguo entre le Peul non sédentarisé et le peul sédentarisé. Le peul sédentarisé, c'est celui que nous allons étudier, et non le peul non sédentarisé qu'on appelle Mbororo. Donc, ce sont des nomades. Donc, nous allons nous attarder sur ce peuple autochtone sédentarisé. Donc, l'on a réalisé une trentaine d'interviews auprès des femmes musulmanes peules de la cour du Lamido, sur question de découvrir le poids des traditions et l'islam, question de confronter les habitus et les arts de faire. L'on a ensuite réalisé une deuxième série d'interviews pour collecter le point de vue des associations des femmes musulmanes, peules, urbaines et rurales, parce qu'elles sont regroupées dans une forme d'association qu'on appelle la FADA, qui est l'association des filles et femmes musulmanes de la Damawa. Et enfin, on a eu recours à quelques archives, photographies et écrits historiques concernant le statut foncier des femmes musulmanes peules du musée du Lamida de Ngaoundéré. S'agissant des séquences de recherche ou alors les pôles de notre démonstration, nous avons premièrement pensé qu'il est bon de s'intéresser aux légendes de la non-reconnaissance des droits fonciers à la femme musulmane, peule de la Damawa. Et cela se justifie par le poids ou alors le spectre religieux de la subalternité et de l'infériorisation qui s'appuie notamment sur une organisation patriarcale prenant en charge les femmes et justifiant ainsi leur discrimination. L'on a eu recours à ce qu'on va appeler la Larisala, qui est l'épître sur les éléments de dogme et de la loi de l'islam, et ce qui repose sur un rite qu'on appelle malikité. Nous avons également bâti cette subalternité et infériorisation à partir de ce qu'on va appeler la morale conjugale. Et nombreux de sourates le justifient dans le Coran. Nous avons pris en exemple la sourate 4. Et comme seconde articulation, nous avons évoqué les épisodes de la reconnaissance progressive des droits fonciers à la femme musulmane peule qui va connaître à travers des mobilisations, à travers des revendications, une certaine émancipation, parce qu'il y aura un bouleversement des mentalités reçues du poids des traditions, qui va conduire, n'est-ce pas, à un desserrement de l'étau masculin, notamment avec la jurisprudence tunisienne, à laquelle les femmes vont s'inspirer, la jurisprudence tunisienne de 2001, permettant, n'est-ce pas, aux femmes de pouvoir accéder à la propriété foncière. On le voit également à travers ce qu'on va appeler l'idjihad, qui est une étude individuelle des sources religieuses, à travers le tafsir, qui est une exégèse du Coran, et du bastion, qui est une exigence du Coran qui va pouvoir renverser ou bouleverser les pensées endocentrées. On peut prendre quelques exemples. Dans le Coran, il est dit que la femme peut avoir des propriétés. Voilà. À partir du Coran, on se rend compte que la femme peut avoir des propriétés, puisque le Coran déclare dans une sourate 4:32 que aux hommes revient une part de ce qu'ils ont gagné, et aux femmes revient une part de ce qu'elles auront gagné. Et on peut encore le lire plus loin. Elles peuvent établir des contrats, faire des échanges, s'engager dans également le commerce. On peut lire également dans une autre sourate 4, les hommes doivent assumer leurs besoins, les besoins des femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Donc, il y a autant de sourates comme ça. Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle des deux filles. Et nous avons, pour terminer, une image qui montre l'intronisation d'une femme et qui, ça c'est en Ngaoundéré, ça c'est dans la cour du Lamido. Une femme qui a eu accès à la propriété foncière et qui a également hérité des biens. Et nous pouvons terminer en disant tout simplement que la femme musulmane peule sédentarisée s'est battue aux côtés, n'est-ce pas, des femmes, l'association des femmes juristes qui a porté leur cause pour pouvoir se voir aujourd'hui reconnaître le droit à l'émancipation, le droit à l'accès à la propriété foncière. Merci.
Alors, nous avons... Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous avons commencé en français, mais now we will finish in English. So I would like to present introduce our next presenter, Professor Mba, who is an assistant professor at Ryerson University in Toronto, Canada. And we'll be talking about someone we have already heard about in this conference, Mariana Ba, and giving her own reflections on this woman's work. Okay, thank you.
Et donc, le temps que je trouve ma présentation PowerPoint, merci à toutes les organisatrices de ce colloque de nous avoir invitées. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Mariana Ba. Donc, on a déjà un collègue qui nous a parlé d'elle hier, notamment la traduction en russe d'une si longue lettre. Donc, la thèse de ce papier aujourd'hui, je peux la résumer en disant que oui, Mariana Ba est une féministe, mais... Personnellement, je pense que le terme « womanist » lui conviendrait un peu mieux parce que le concept s'intéresse aux angles morts du féminisme et parmi ces angles morts, j'identifie un peu la race, la classe, la caste et la religion. Donc, ma présentation sera un tout petit peu une continuité de ce que mon collègue vient de dire sur la femme musulmane et de l'islam politique dont Fatou nous a parlé hier. Ok? Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas des mathématiques. Parce que je n'ai pas eu le temps, je sais que j'aurai seulement 15 minutes pour cette présentation, je ne pourrai pas vous parler du plurilinguisme. Donc, ma présentation s'intitule « Plurilinguism and Womanism, Reassessing Mariana Ba's Feminism ». So, because I know I won't have time to go into details about what plurilingualism is, so I'll just offer you this mathematical formula. So, not to scare you, but you have the legend here, so you can make sense of it. So, plurilingualism, in a sense, is the combination of different languages in the novel. It's different from multilingualism, so we can have the debate later on if you want to. So, LX stands for the main language of the narration. So, in this case, we're talking about French. El no X, like the other languages that Wolof, Arabic, Serer, all these other languages present. And LX factor de El no X, and this is what I call transpolingualism. Okay? Donc, c'est-à-dire, okay, that means when Mariana Ba thinks in French, but translates her thoughts literally into things in Wolof and translates it literally into French. So what we see is French, but the ontological meaning resides in her Wolof language. Okay, so this is just to summarize. So in this communication, I offer a close reading of Une si longue lettre to show how Mariana Ba carries the voice of women in a complex linguistic setting where race, class, sex, and gender intersect. Plurilingualism in Une si longue lettre is not simply defined as a juxtaposition of different languages. It is also and foremost a blend between various languages, often opposite literary traditions. So here, how do we go back? Here, the next slide. This one? Okay. Donc, here I offer you just a mind map of the languages used in Une si longue lettre. So you can tell the mind map is in French, but my presentation is in English. So that's the struggle I have daily. So the need of this linguistic blend is a direct consequence of the continent's colonial heritage, a heritage that Ba seems to accept as part of the cultural hybridity that has come with colonization, a hybrid heritage that she chooses to carry into the future. In Une si longue lettre, Ba puts the Senegalese society under a microscope and raises pressing questions facing women and which are rooted in tradition, sex, and culture. The main constituent of the plight of the African Muslim women, which Ba identifies and which finds their logical explanation in Islam, are polygamy and the place of women in the context of a fairly young nation trying to map its way into modernity. According to Miriam Murtuza, in Une si longue lettre, Ba presents polygamy as an institution which undermines social and political development as it deprives its women from agency. End of quote. In Ba's novel, both Rahmatullahi and Aissatou are betrayed by their respective husbands, each of whom marries a second wife. In Islamic society, Men are allowed to marry up to 4 women if they fulfill all the recommendations established by their religion and if they can afford it and if they can treat the wives equally. And clearly, this wasn't the case for either Rahmatullahi or Aissatou. So polygamy and the impact it has on both men and women is one of the major topics Ba addresses in her novel. As far as the place and the role of women are concerned, they consist mainly of domestic ones. Women are more often than not found in private and domestic spheres, where they are mostly recognized for their roles as mothers, wives, and daughters. In Centralité excentrique, La maison comme non-lieu dans une si longue lettre de Mariam Abba, Georges Joseph analyzes how Rahmatullahi turns this domestic confinement into action. Even though the house is an appropriate place for women, it remains that even there, they have a subordinate role, and men are considered the head of the household. Rahmatullahi's regaining control of her house after the morning visitor and Modu's family have literally invaded her constitutes the first step in her awakening process. Ba's reaction to patriarchy, however, is, to say the least, rather ambivalent. While she obviously fights for more rights for women, she concomitantly displays reservation about the extent to which the changes in women's conditions she is calling for should be carried out. In a society where marriage, in which the husband is seen as the only authority, is viewed as the crowning of a woman's achievement, Rahmatullahi, whom we see as Ba's voice, declares, quote, "I am one of those who can realize themselves and fully bloom only when they're part of a couple. Even though I understand she's talking about Aissatou Stan, even though I respect the choice of liberated women, I have never conceived of happiness outside of marriage," end of quote. This statement illustrates Ba's ambivalence, the uneasiness of a woman still clinging to her tradition while at the same time calling for changes. As Daouda Diagne rightly remarks to Rahmatullahi, quote, "Even you who are protesting, you preferred your husband, your class, your children to public life," end of quote. Consequently, Ba's denunciation of patriarchy does not necessarily mean an all-out rejection of a male-dominated society and a fight to reverse gender role and establish a female-dominated environment. Rather, she strives to redefine patriarchy in a way in which both men and women could share responsibility. She envisions a society in which men and women could have complementary role, a place where union to men stop being the crowning of a woman's achievement. In Une si longue lettre, the extent to which women's freedom is restricted transpires in how negatively the Senegalese society views single women. After her husband abandoned her for his new bride, Rahmatullahi, recounting her experience of going alone to the movie theater, confesses, quote, "I survived. I overcame my shyness at going alone to the cinemas. I would take a seat with less and less embarrassment as the month went by. People stare at the middle-aged lady without a partner. From the surprise looked, I gauged the slender liberty granted to women," end of quote. This statement emphasizes the subordinate place women hold in a society which considers them only in relation to the male figures in their lives, women as mothers, wives, and daughters. They're almost always expected to be under some kind of male authority, regardless of their age. The traditional and Muslim Senegalese society is not just patriarchal, but intolerant towards and inquisitive about these single women who venture outside the domestic sphere. While Rahmatullahi struggles to find a way to reconcile the past and the present, to find right balance between her place as defined by her tradition and religion and her aspiration for more freedom, she confesses, quote, "I hope to carry out my duties fully. My heart concurs with the demands of religion. Since my childhood on this strict precept, I expect not to fail," end of quote. By contrast, Aissatou defiantly makes the choice to resolutely move forward, asserting, Princes master their feeling to fulfill their duties. Others bend their head and in silence accept a destiny that oppresses them. Thus, simply, briefly put, is the internal ordering of our society with its absurd division. I will not yield to it, end quote. She refuses to be the other. She refuses to be a subordinate being. Aissatou, though raised in a long-standing patriarchal society, successfully fights this domination of men over women. Not only does she triumph over her husband's bestiality, comparing his second marriage to such basic needs as eating and clothing, she also turns her back on her traditional customs, which thought to bring her down because of gender and social constraint. By separating from her husband, Aissatou now lives as a single mother and is in charge of raising her children, all by herself without the help of her husband. She thus places herself in the position of the leader of a family unit, and through her character, Ba subverts the myth of the domesticated and subdued wife in a home. Yet, patriarchy and polygamy are not the only constituent of the plight of women. In Si Long Lettre, women are also victimized on social and sexual grounds. Even if one might argue that the problem of class is not exclusive to women, but instead extends to the whole Senegalese society, men and women alike, it remains nonetheless that in Ba's novel, the only two characters who belong to the lower class are women. While Ba depicts Famata in the traditional role of a griot, a person living off her guerre, the people of noble class, Aissatou, in contrast, is nothing like the customary goldsmith, like Le Forgeron. She does not work in the forge. Instead, he made her way through education. And here again, in depicting an Aissatou, a woman who not only stands against polygamy, but also a successful interpreter in the US, and eventually helps her lifelong friend Ramatoulaye out of difficult situation, Ba subverts one more time this received idea, which tried to keep the lower classes down. Ramatoulaye emphasizes the importance of Aissatou's action when she says, quote, "I shall not forget your response, you, my sister, nor my joy and my surprise when I was called to the Fiat agency and was told to choose a car which you had paid for in full. You, the goldsmith's daughter, gave me your help while depriving yourself," end of quote. So by having a goldsmith morally and financially rescue a noble person, a guerre, Ba inverts the customary role governing the Senegalese society. She, as a matter of fact, rejects the validity of the traditional of a tradition deeply rooted in her society, a custom passed down from generation to generation. Just have one page and a half left. Bear with me. So similar to, and to an extent, a consequence of patriarchal society, sexism is very much present in Si Long Lettre. And here I'm going to skip some details. So, and we talk about one of Aissatou's, Ramatoulaye's daughter, like Aissatou's namesake. She became pregnant in the novel out of wedlock. And the consequence was she was expelled from school because in Senegal at that time, not just in 1979 when the novel was published, even at the time when I went to school, because I'm from Senegal too. So one of the consequences of a schoolgirl pregnant out of wedlock is you would be expelled. But the man could stay. And then she kind of interrogates that a little bit. Okay. And the other thing is Mayamaba also uses a male's voice to talk about the demands that women should be recognized as actual being and not only exist in a physical society. And here she uses the character of Daouda Dien, and this is what Daouda Dien said to Ramatoulaye. "Women should no longer be decorative accessories, object to be moved about, companions to flatter or calm with promises. Women are the nation's primary fundamental roots, which from all else grows and blossoms. Women must be encouraged to take a keener interest in the destiny of the country." So Ba, through Dao Dajia, demands that women be recognized as actual being and not only exist in the physical reality, but are also capable of making fundamental and significant contribution to the development of their society. And here again, by conveying this argument in favor of women through a male's voice, Ba distances herself from radical feminists who see in the African male the worst enemy of the African woman. Even though Ba revolts against male domination, she still makes a realistic picture of the society. Not all men seek to bring women down. Neither do all women wish the best for one another. Therefore, the struggle for women's right in Unsi Longlet is not to be read in terms of an opposition between the two sexes. Ba's theory of feminism calls for a society founded on a non-gendered basis. She constitutes a new breed of feminist, and here I'll borrow Alice Walker's term and call her a womanist. Not sure if she'll agree, but she won't be able to answer, so I'll just say that. So thus, Ba's work combines autobiography, gender criticism, and history in a language blending oral feature with the standard French to give a historical and cultural overview of her society. Maya Amaba's challenge was to denounce the limits and injustices, a blind acceptance of the teaching of tradition and customs she still believes in entails. Her dilemma was how to bridge the present and the past, how to adopt Western values without renouncing her own. In her case, one solution is plurilingualism. While Unsi Longlet is physically a novel, an artistic expression that appears in print, and definitely a piece of literate work, as early as the opening passages of the book, readers quickly come to the realization that they are in the presence of a strong traditional society, as part of the language used to write the novel is filled with repetition, proverbs, and other characteristics of orality. This blend of orality and literacy not only mirrors Ba's attempt to connect with two different audiences, the first local and the second Western, but it also captures her reservation about complete and utter changes that would do away with traditions she is still sensible to. In Unsi Longlet, Maya Amaba positions herself not so much as a storyteller, but rather as a history teller. Thus, she inspires reflection on Senegal's transitional phase, both in the country's evolution and in women's and men's condition. And that I'm done.
Thank you very much. Our last presentation is by Professor Mabel I.E. Ibrahimo, who comes to us from the University of Abuja in Nigeria, and will be speaking about intersectionality in Nigerian drama. Professor Ibrahimo.
Thank you, Mr. President. Bonjour. Yes. Good morning, everybody. I wish to start by thanking the organizers of this conference for having me. The full title of my paper is Intersectionality in Nigerian Drama, Tradition, Subversion, and Currency in Selected Gendered Plays. I started by saying that both text and context in Nigerian drama connect to produce realities that shift between drama, meta-text, and social reality. The plays analyzed in this paper reflect women who gauged and questioned their situations, impairment, worked out means through which the restraining factors were subverted and thereby used to underscore the currency with which freedom and affirmation occur in text and the Nigerian society. Women who were unaware of ideological feminisms were projected in the play, and these women proved a dynamism of insurgent concerns And in investigating these women, I was able to uncover some kind of male-centered history and also some aspects of the dimensions of male-female dichotomy and centrality in the plays. I tried to look at intersectionality as it provided a means of interrogating oppression, identity, segregation, inequality, or injustice, especially as these are reflected as burdens borne by women. And we see issues of race, disability, sexual orientation, gender identity, age, legal systems, and nationality. Already we have in the Nigerian sphere some plays by men and women that reflect insurgency, female insurgency, that reflect the strength and positivism of women in areas where they are dominated or relegated, and how they try to subvert these male hegemonies that are thrusted upon them. Some of these plays are Ike in Mata, Mulk in Mata, The Reign of Wazobia, The Wives Revolt, Modern Dancing, Women of Owu, Emota, Our Wives Have Gone Mad Again, and other plays. And they all reflect intersectionality as it shows sexual and class oppression. I then went on to discuss the four mothers on the platform of drama and theater within the Nigerian creative landscape. We have Zulu Shofola, Chikwenye Okonjo-Oguyemi, Molara Ogundipe, Catherine Acholonu, Amina Mama, Oyeronke, Oyewumi, Ifi, Amadiume, and many others. Not all of them are playwrights or were playwrights, but they were able to interrogate the situations of women in context in a way that other playwrights, succeeding generations of playwrights, now used what they epitomized to dwell or focus on the situation of women. There is Gloria Ernest Samuel, the youngest of the three dramatists that I considered in the paper. Ernest Samuel reflects a strong reference to the space of women in a subdued polity. And she has a standpoint of this oppression in dialectical angles of minority, hegemony, power relations, powerful female subjects in such spaces, patriarchy, and discrimination. And sometimes we see these various contexts weakening women and at other instances giving them some forte. In A Radical Sacrifice, the celebration of traditional marriage between Uremma and Uwakwe commences with the father of the bride praying for his daughter as tradition requires. At the point of sealing the union, Adobe, whom one can refer to as the head of the Umuada in that community, halts the proceedings by invoking her position as the aunt of the bride. It turns out eventually that Adobe only wants to extract from the bridegroom allegiance to his bride. And then there is a flashback to Amaka and Ugoma's break with tradition and the consequences. Ugoma brought a child out of wedlock just to save her husband from disgrace because he was impotent and was not physically fit to make his wife pregnant. In the end, we have the death of the bride. The husband kills the child and also murders his wife. With Julie Oko, we have the employment of plays to underscore interpersonal roles among women and men. Her plays like Edewede and In the Fullness of Time revolve around the globalization of female genital cutting. But it is in The Fullness of Time that she reflects the concern, especially in Paris, of Malam Keita, who carried out female genital cutting and which resulted in the death of the victim. These accounts are found in the prefatory notes to the play. However, In the Fullness of Time shows the subversion of tradition, where you have the influence of patriarchy challenged. Off-race plight in an abusive marriage is the epitome of women's struggle against male hegemony. Gender inequality is depicted as the unjust burden borne by women in the astute manner Esele offers quality counsel to the women in the play. Emeka Nwaboeze is the only male dramatist of the three. The Dragon's Funeral draws its material from a historical reality, which was the Aba Women's Riot of 1929. And the background to this riot was the unjust tax laws that the colonial rulers, you know, fixed for women to pay. And in adopting the storytelling technique, we see how the Aba women denounced patriarchy, racism, because they also fought the district commissioner, injustice on the unjust tax laws in 1929. And so Emeka Nwaboeze explores history using drama to reinforce women's rights and the engagement with forced encounters. The first encounter here is the union between colonialism and the ruled or the conquered ethnic group. Nigerian history is replete with agitational exploits by women. We have Funmilayo Ransome-Kuti, Margaret Ekpo, Hajia Gambo Sawaba in civil societies like the National Council for Women's Societies, professional bodies, among other individuals and groups. And so the agency we can impute into the plays read is the movement from docility to action. And we could also look at race and authenticity, especially in The Dragon's Funeral, where the women asserted their race, asserted their gender, as well as their class. And so is it possible that only a black man can speak for a black? Only a post-colonial subcontinental feminist can adequately represent the lived experience of that culture? And my standpoint here is that many of these women who revolted against colonialism, like the Egba Women's Uprising, the New Busa Revolt, as well as the Aba Riot or the Women's War in 1929 in Aba, proved that without strong Western education, without that contact of a tutelage position between the whites and the traditional women, women were able to, without formal education, rise up against injustice. And then the Afrocentric thoughts inherent in the plays proved to us that this contact wasn't really necessary. There is the issue of speech. Women were able to, you know, vocalize their resentment, group action for social impact, pedagogy, because in writing, these playwrights are also able to influence younger writers. Julie Oko and Emeka Nwaboeze are in their 70s and have retired from active university teaching. And so with Gloria Ernest Samuel and other playwrights along with her, we see that the issue of pedagogy is crucial in interrogating these plays. And then realization and renaming. A lot of these characters realize their situations and they try to rename them or become abusive of the powers of oppression. The traditions that are inherent in this place are marriage or domesticity, motherhood, fertility, and the ensured seat. The seat here means the position of the wife or mother in the home, in her ability to bear especially sons for her husband. And so the seat is shaky if she has all female children or no child at all. There is the extended family system, respect for elders, inheritance matters or legacies, the living and the ancestral linkages, that sense of community that is common among Africans, orality and performance. In fact, in the dragon's funeral, there are a lot of songs, performance, dance, music, and the fusion of orality and performance make these plays interesting to read and watch when they are staged. The tradition of patriarchy, as well as the focus on empire. That focus of empire is very strong in the dragon's funeral, as well as in the fullness of time. Subversion comes in when the image of the Nigerian woman as oppressed in drama in the 21st century shows the contextual political dimensions in the country. As I speak, there are still tensions between the genders, there are religious tensions, there are ethnic tensions. And so, the women that are empowered in politics as a result of their participation in politics or involvement in governance tell us that drama has not done enough to capture this shift from the edge of the political situation to the center where women, you know, in governance have been able to speak for women. And we also stress the need that these exploits should be able to make more powerful projections of women beyond the glass ceiling in context or in the consciousness of women, especially young girls. And part of the subversion is also to generate theory, use ideology like womanism, Afrofeminism, cultural feminism to fight Western, especially negative racial standpoints in theory. Here, I commend Catherine Acholonu for her strong theoretical position in propounding motherism. Another subversive act is the generation of knowledge flow, knowledge-based activism, fueled by the need for recycle or constant change. And so how does currency come in all these pictures that I've painted before you today? Enlightened action and approach show that age, gender, profession, status, class have women caucuses, you know, that try to project them for them to gain traction in activism. In fact, in almost every profession in Nigeria today, whether in the formal or informal sectors, you have women caucuses to bridge the gender gap and make the flow of ideas across generations, across these various divides to be evident. The grassroots mobilization, / rural mass mobilization and collective action also facilitates this meaning. Cross-continental feminisms and international connections also try to interrogate gendered space in politics, the marginality-centrality ethos, and thereby give power to the women. And this happens through political education, writing, documentation of experiences, experiential learning, entitlement mentality, as well as interpretive challenges. A lot of interpretation needs to come in, just as the speaker before me has done, in proving that one road, as we say in Africa, does not lead to the marketplace. And so the power to women through African women or male playwrights reflects that space of dominance and influence, the control of knowledge production in text, the depiction of possibilities of empowerment, be they financial, academic, or scholastic, interrelational, should also bring about sororal collaborations as dramatists, reviewers, critics, and the like. Creative surrogacy and mentorship is also a means of power, publishing houses or virtual outlets. We need more conferences and gatherings to discuss women at formal or informal levels, local or international levels. The deliberate subversion by women through the retelling of women's stories and the projection of the various contexts that we see in this place also tell us that rights advocacy groups could be, you know, influenced by this place. Some groups in Nigeria have done this by commissioning female playwrights to focus on women concerning certain themes. One of such playwrights is here with us today. She's going to present a paper in the afternoon. Some of these reflect power, reflect the issue for women to project themselves on the center stage. There are also legal options, policy considerations, and constitutionality. In all, currency gives us the evidence of continuities, consistency, emergence of new female playwrights. Most of the first, second, and even third generations of Nigerian playwrights have retired. Some are dead. And so we have some like Gloria Ines Samuel, Tosin Tume, Rashida Lima, Biola Adumati. And so these increased ideological foundations call for media activism, demand for state actors or justice administrators, as well as curricular review. And so the findings are that local activism by women from sociopolitically engaging query often lead to their dominance, devoid of foreign or local influence. The Egba Women's Uprising of 1948, the Aba Women's Riot of 1929, the New Busa Riot of 1915 come to mind. The revolt against male political domination could often be from subjective individual standpoints and not mass protests. Hajia Gambo Sawaba is an example. And then the non-white mainstream ideological blocks help us to query and revise the forms of feminisms in Nigeria. And they uphold the anti-feminist angle due to its foreign frame of activism. In the global South, therefore, women in non-formal sectors with no inclination of Western feminism have always agitated for their rights or against oppression. Many of these oppositional individuals or groups act in context, and this context have been highlighted by Kuti in her submission on the dudu, the woman as a toy or plaything. Playtexts by women and when and men should affect tradition, revise issues. The location of ideology is crucial. And one major finding is that Nigerian gender drama is yet to fully explore heterophobia as seen in the prose form. Many novelists, many poets have, projected same-sex relationships or the heterophobic move. And some of us believe that this may be due to the Same-Sex Prohibition Act of 2014 in Nigeria. I made some recommendations, including equality, social justice, and the fact that drama should continually, as a matter of currency, expose inequalities in the polity for discussion and action. And so, we should underscore inclusion, acknowledge male support. Men are not the only enemies of women. And irrespective of the criticism against strong women in drama, because a lot of critics accuse women of trying to become men, there is evidence of continued interrogations of this text from new angles, especially the impetus of contextual experiences. Lastly, I have three quotes from the plays, one by Adaugo in The Dragon's Funeral that says we should not be dormant, and then the second by Enwalen in The Fullness of Time, that the woman eventually becomes weak and so should be nurtured. And then lastly, Ebem in A Radical Sacrifice says, what makes a man is the ability to sustain a lineage. But the last quotation by Adugo in The Dragon's Funeral is crucial. And it is with that I want to underscore my position today, that the woman is primary, the woman is primal. And according to her, it is a woman that gave birth to a chief, that big man, resulted from a woman's action. Thank you very much.
Ok, merci. J'ai une question pour Madame Ba, mademoiselle, oui. Madame, ok. Voilà, j'ai devant moi une interview par Aliam Touré qui demande à Mariam Abba sur le roman. Il pose la question sur son roman, une seule lettre, pardon. Et elle dit j'ai senti en moi un conflit et je m'étais crié on a blanchi ma raison et ma tête est restée noire. Ça, c'est Mariam Abba qui répond à propos de son roman. Alors, je voudrais poser la question de savoir, juste avoir your take on that. Parce que womanisme, est-ce que, on sait que c'est basé sur les traditions, sur le fait qu'elle est noire, bon, c'est une façon de s'affirmer, mais est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de hybrid féminisme parce qu'il y a en elle ce conflit-là d'être noire et en même temps les valeurs occidentales en écrivant son roman et en pensant. Et je voudrais savoir comment, quelle est votre position par rapport à ça, si on peut parler d'une certaine hybridisation du humanisme, bien du féminisme noir. Merci.
Donc, merci pour la question sur Mariam Abba. Comme nous avons vu hier, quand on parle de féminisme, on a seulement l'embarras du choix pour la terminologie. Donc, womanist, africana, donc les termes sont, on en a plusieurs. Et une si longue lettre, si je ne me trompe pas, est apparue avant que Alice Walker nécessairement forme le terme de womanisme. Donc, une si longue lettre est antécédente à Alice Walker. Donc, et l'objectif du womanisme, ce qu'il fait en fait, c'est que le womanisme parle des angles morts du féminisme. Et donc, du coup, est-ce qu'on l'appelle womanist? Est-ce qu'on l'appelle hybridité? Moi, je pense que c'est juste une question de terminologie et que dans l'essentiel, on se retrouve, on parle la même chose. Et qu'encore une fois, une si longue lettre est antécédent à cela. Et que du moment où, dans son roman, elle parle de questions qui n'étaient pas prises en charge dans le féminisme classique mainstream, donc moi, je pense que je n'ai pas de problème à l'appeler autrement.
Thank you very much for those presentations. I had a question for Mabel about the plays. And you spoke a little bit about the critical reception, and I was wondering if you could just speak a little bit more about the reception of these plays in Nigeria, like if they're taught in schools or staged often or just sort of created any controversy, just a little bit more about the reception and impact. Thank you.
Thank you for the questions. In terms of critical reception, we have a lot, both positive and negative, for the plays. The author of The Dragon's Funeral was hailed for putting into drama the exploits of the three women and the fourth, Nwanyerugo, who spearheaded that war against unjust tax laws. Some novelists had dwelt on this. And so the use of drama to make it graphic before an audience in a short time facilitated the dramatist's reputation. Like I said, he's on retirement, but the play continues to get positive critical reviews, especially as it highlights Igbo culture of performance. In the Fullness of Time had mainly negative publicity because she was attacked for trying to abolish or discourage the tradition of female genital cutting. And the prefatory note to In the Fullness of Time reflect some of these criticisms against her, because before writing In the Fullness of Time, she had written Edewede, which many people in her cultural terrain didn't like her for. Despite the promulgation of a law against female circumcision or female genital mutilation, a lot of people, even as I speak, still carry it out because it is seen as a means of, you know, controlling the woman's sexuality. And whenever the play is staged, traditionalists do not like the position of Julie Oko. At another level, it has also made her popular because many universities set these two plays as texts for students to read. A Radical Sacrifice is not yet published, but after its performance, the playwright was encouraged by critics to do more of dramatic writing because she's also a poet. In fact, she's more known as a poet in her community than as a dramatist. What facilitates the critical reception of these three plays is that they are university-based. And so it is possible to use the plays to influence young minds. Those who read the plays as set texts or those who come to the theater to watch them. And the staging is also done at the departmental level or faculty level, or when universities adopt the plays as convocation texts. On
to follow up for the last presenter, thank you. I really enjoy all the presentations, but I had a question for you. I wanted to know if you saw influence between a lot of the Nollywood films, because even the title, like Wives Revolt, I do some work on Nollywood film, and if you've seen influence from Nollywood film in these plays.
If the dramatists have been influenced by Nollywood films, I would say, you talked about The Wives' Revolt. The Wives' Revolt was written by J.P. Clark, and he's in his 80s. When he wrote the play, we hadn't yet known much of Nollywood, yes? Oh yes, because Okay. Oh, yes, because theoretically in the media, they talk about the center place theory, that the present, a present medium is influenced by the medium before it. And after a while, that present medium is pushed from the center to the periphery. And so we've seen this influence on Nollywood from the actors that moved from radio to, from stage to radio to television and then to film. However, I'm of the opinion that Nigerian films should not bear Martin Stengler's nomenclature or christening. I think we can do more than that. I use Nollywood, you know, with some caution. I prefer to use Nigerian films. Yeah. Thank you very much.